Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai mon prix du conservatoire de Nice. Et là, ça s'enchaîne. La vie de ténor happée par le système de l'opéra. Je rentre dans les chœurs de l'opéra de Monte Carlo. C'est extraordinaire pour moi.
RTL.
Un rythme de fou, mais qui me plaît. C'était enthousiasmant. Ça nourrissait bien mon ego. Sauf qu'à un moment donné, ça a eu des limites. Il arrive ce qui devait arriver. Quick, je perds ma voix.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une histoire fascinante que l'on vous raconte maintenant, celle de notre invité, le ténor Vincent Karge. Bonsoir.
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 Bienvenue. Vie fascinante, je le disais. Je vais la résumer en quelques mots, puis ensuite on aura 50 minutes pour la raconter, un peu moins de 50 minutes. Vous avez d'abord été technicien forestier avant de prendre conscience de vos dons de ténor. Vous devenez riche et célèbre avant de perdre votre voix, on l'a entendu, quick. Et puis de vous retrouver en quelques mois au RMI, c'est dans un voyage initiatique chez les Indiens de Tsonon-Twan au Canada que vous avez retrouvé cette voix. Alors on va raconter ces différentes étapes. D'abord, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, je suis dans les chœurs de l'Opéra de Nantes, en gênante opéra, avec beaucoup de bonheur, beaucoup moins de pression que quand j'étais soliste. Voilà, un vrai plaisir d'être dans le peloton plutôt que de vouloir gagner le Tour de France. Le plaisir de l'équipe, de la résonance vibratoire avec les autres, avec les collègues ténors. Il y a une super ambiance à Angers Nantes Opéra. Voilà, c'est ça
et,
en ce moment.
Et quand vous avez retrouvé votre voix, vous avez donné des cours de chant. C'est toujours vrai aujourd'hui. Cette transmission, c'était quelque chose d'important.
Oui, c'était surtout dans les 5 dernières années. J'ai donné beaucoup de cours de chant à la fac à Strasbourg notamment. Et puis des randonnées lyriques où j'emmenais des gens avec moi dans la nature chanter de l'opéra en contact avec les arbres et voilà. Et puis des choses plus thérapeutiques, des sons pour des gens qui devaient guérir de la voix, qui avaient été opérés pour le coup, pour les amener à reparler déjà. Voilà, il y a eu diverses expériences liées à la voix depuis ce retour-là.
Vincent Karge, vous organisez aussi des randonnées lyriques, on y reviendra tout à l'heure.
Oui.
Votre région d'origine, c'est la Lorraine, et votre tout premier métier, c'est quoi ? C'est technicien forestier ?
Oui, c'est ça. C'était ma première passion. C'était un très, très chouette métier qui m'a amené à vivre ça au Québec déjà, et puis en Afrique, au Burundi, pour faire de la recherche forestière. C'était une première vraie passion.
C'est quoi le quotidien d'un technicien forestier ? Alors moi j'ai l'image du bûcheron canadien avec la chemise à carreaux.
La chemise à carreaux, voilà. Ouais.
Le bon vieux cliché.
Non, c'était très, très varié. Par exemple, au Canada, je travaillais sur la prédation des bébés caribous dans le parc de la Gaspésie.
Wow.
Qui disparaissaient. Il fallait étudier quels étaient les prédateurs, les ours ou les coyotes. Donc on ramassait des merdes d'ours et de coyotes, souvent par hélicoptère. On se posait sur une montagne.
Ouais.
Et puis on allait ramasser ça et puis voir s'il y avait du poil de bébé caribou là-dedans et déterminer qui était le prédateur. Et voilà le genre d'expérience forestier, homme de nature.
Ça vous a marqué en tout cas.
C'était génial.
Et votre don de ténor, vous l'avez découvert comment, Vincent Karge ? En chantant dans les forêts canadiennes ?
Non, pas vraiment. Mais en fait, je faisais toujours de la musique. C'était ma passion aussi. Et je jouais Bob Dylan et puis Maxime Le Forestier à la guitare. C'était le mec, voilà, à 17 ans, qui est autour du feu et avec sa guitare et qui chante. Mais l'opéra, j'imaginais vraiment pas. Et c'est justement, c'était en poste au Burundi, à Bujumbura, à la capitale, où un copain me dit « Tiens, mais viens donc, là, ça va être sympa, il y a 40 nationalités au chœur, à la chorale de Bujumbura, chœur amateur. » J'auditionne pour le chef de chœur, et il me dit « Ah bah, mon gars, tu fais ce que tu veux, t'as une vraie voix de ténor, tu fais ce que tu veux avec ça, mais voilà, faut que je te le dise, voilà, débrouille-toi avec ça. »
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez chanté en public, Vincent Karge ?
Oui, en solo ou en chœur ?
En
solo, ouais, je m'en souviens très très bien. C'était à l'Opéra de Nice, premier petit rôle dans Lohengrin de Wagner. C'était un moment important, parce que ça correspond aussi à un moment émotionnel vis-à-vis de mon père qui est parti à ce moment-là, le lendemain de la première de ce premier petit rôle. Et comme s'il avait attendu que je sois lancé dans cette carrière de soliste et puis il est parti.
Vous racontez cette histoire, Vincent Karge, dans un livre publié chez Favre, « Un loup dans la gorge », l'homme qui avait perdu sa voix, puis retrouvé son âme. Votre voix, c'était quoi ? Un diamant brut qu'il fallait tailler ? Vous avez pris beaucoup de cours de chant ? Après cette rencontre au Burundi, déjà c'est dingue, de quelqu'un qui vous dit « mais t'es un ténor naturel, travaille ta voix », c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Je suis rentré en France parce qu'au Burundi, il n'y avait pas vraiment de prof de chant d'opéra. Donc je suis rentré un an et demi après ce temps-là. Et puis effectivement, ça s'est confirmé auprès de divers professeurs de chant que j'avais ce potentiel. Mais c'était tout coincé, il fallait travailler. C'était pas gagné. Et donc je me suis retrouvé au conservatoire de Nice avec un professeur qui était en vogue à l'époque, qui était professeur de Nathalie Dessay notamment. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où il faut que je sois. Tous les grands chanteurs français solistes de l'époque venaient travailler là.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais quand même 25 ans, hein. Ouais. C'était tardif.
C'est tard, ouais.
Oui, j'ai découvert ma voix à 24 ans, à 23 ans et demi. Donc il fallait y aller et prendre cette décision d'y aller. Donc, et du coup, ça a été assez vite. En 3 ans, j'ai fait le cursus de 9 ans de conservatoire. Il fallait rattraper le temps perdu, entre guillemets, pour être dans les clous au niveau de l'âge pour les concours internationaux, etc.
On ne peut pas avoir plus de, je ne sais pas, 30...
Souvent, 30 ans, c'est la limite d'âge pour les concours, 32 ans, 35 pour 2-3 concours par-ci, par-là. Mais voilà, il faut être opérationnel à 30 ans. Quoi.
Alors là, vous mettez à chanter, vous chantez pour quels opéras, Vincent Fecarche?
Alors d'abord, je réussis un concours à Vienne, ouais. J'ai 2 agents grâce à ça, et là, je suis lancé sur des premiers rôles, effectivement, après quelques seconds rôles. Et là, tout de suite, le rôle de Werther, de Massenet. Un rôle extraordinaire que tout ténor français a envie de chanter.
Pourquoi ?
C'est Goethe, c'est les souffrances, ouais, du jeune Werther, c'est un des plus beaux musicalement, c'est Massenet, je pense que c'est le plus beau qu'il a écrit, à mon goût. On meurt à chaque fois à la fin, on se suicide d'un coup de pistolet. Voilà, c'est des émotions extrêmement profondes et avec des phrases musicales à tomber, quoi. Donc voilà, je deviens Werther un petit peu tôt. Un petit peu, c'est un rôle avec un orchestre très fort en dessous, donc il faut chanter très fort pour passer l'orchestre. Et peut-être que physiquement et techniquement, je n'étais pas complètement prêt pour assumer un rôle comme ça sur la longueur.
C'est vous qui le dites ou ce sont les critiques qui ont dit ça à l'époque ?
Ah non, les critiques ont adoré. Je faisais un peu illusion, mais je sentais que je m'épuisais. Voilà, je sentais que j'avais besoin de 3 jours pour récupérer. Après une représentation, j'avais besoin de m'étaler dans un lit pendant 3 jours et de ne pas parler pour récupérer. Donc j'étais un peu en surchauffe par rapport à... C'était ma voix, mais trop tôt. Ouais,
et votre vie, elle devient une sorte de tourbillon assez rapidement ?
Ça devient un tourbillon, ça devient... Je ne sais pas dire non à cette époque. Et je ne connais pas bien le monde de l'opéra. Les agents, j'en ai 2. Ils m'envoient, je chante un soir à Pékin. C'est juste 4 jours, l'aller-retour. Et le lendemain, je reviens, je chante à Bâle. Je dois remplacer le surlendemain à Karlsruhe. Ça, c'est un rythme de fou et je sens que je m'épuise. Et j'avais besoin de connaître un peu mes limites à ce moment-là. Quoi.
Et un jour, vous allez perdre votre voix. On va expliquer comment, dans la curiosité. C'est dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Cette voix, c'est celle du ténor Vincent Karsch qui raconte comment il a perdu et retrouvé sa voix dans un livre publié aux éditions Favre. Vous êtes en studio avec nous, Vincent Karsch. Vous vous rappelez quel opéra c'était, bien sûr, quel moment ?
Ça, c'est dans la nature et c'est l'opéra, c'est Tosca de Puccini.
Ah, c'est dans la nature, c'est dans ces randonnées que vous faites avec...
C'est dans le cadre des randos lyriques, effectivement. Ouais. C'était au tout début du démarrage de ces propositions-là.
Donc vous emmenez des touristes passionnés de nature et de chant ?
Bah, c'était selon, enfin, voilà. Il y avait plusieurs pôles d'attraction, d'attirance par rapport à ces propositions-là. Et c'était vraiment des gens qui souvent ne savaient pas forcément chanter et qui se disaient, tiens, l'opéra, bon, allez, est-ce que je peux chanter de l'opéra ? Et qui avaient envie d'entendre un ténor aussi de près, parce que voilà, ça c'est aussi, on n'a pas ça tous les jours, de voir l'investissement corporel que ça représente. Et puis de tenter de chanter du Carmen, du Traviata, du Lohengrin de Wagner, C'est pour tout le monde, c'est possible.
Vincent Karsch, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de ténors,
ouais,
de voix ?
Ouais. Ouais, ouais. Alors de ténors, il y a vraiment toute une palette du ténor léger jusqu'au ténor dramatique ou voire wagnérien. Là, c'est vraiment des ténors qui ont une voix très, très puissante. C'est presque 120 décibels. Hein. C'est un avion à réaction.
Ça sans micro.
Ah, tout ça sans micro, voilà, les résonateurs du corporel, de tout le corps. En fait.
Et vous étiez quel genre de ténor ?
Alors moi, je suis intermédiaire, je suis un ténor lyrique, exactement au milieu de tout ça, voilà, l'équilibre du ténor. Là.
Vous nous racontez votre histoire, Vincent Karsch. Dans la première période faste de votre carrière de ténor lyrique, vous devenez résident soliste à l'Opéra de Bâle. Ça veut dire quoi ? C'est très prestigieux ?
Ouais, c'est une bonne maison, hein. Ça s'appelle un théâtre A dans le système germanique. C'est pas les grands théâtres comme Vienne, Staatsoper, etc. Mais c'est la marche en dessous. Et c'est quelque chose de très intéressant à vivre.
Ça veut dire que vous devez porter les rôles phares.
Voilà. La plupart des premiers plans qui correspondent à ma voix. Mmh. Là, en l'occurrence, c'était Janis Kiki de Puccini, c'était Orphée aux Enfers, Offenbach, c'était, voilà, il y a eu plusieurs expériences comme ça, Fenton dans Falstaff de Verdi. Mais c'est un gros rythme, c'est-à-dire qu'on change tout le temps. Et il y a des représentations tout le temps, c'est pas du tout le rythme français.
Et c'est à cette période que votre ciel a commencé à s'assombrir. Il y a le cancer qui frappe votre famille, qui est frappé ?
Oui, mais mon père et ma mère, les deux, en 3 ans d'intervalle. Donc il y a un gros choc émotionnel là, qui vient perturber pas mal la machine, en tout cas. Et puis à cela donc, se rajoute le rythme assez infernal que je vivais à ce moment-là, physiquement, nerveusement. C'est de la pression d'aller chanter des rôles de premier plan tout le temps. Mmh.
Est-ce qu'un opéra, ça dure en quoi ? Entre 2 et 3 heures, 4 heures ?
Voilà, en gros, entre 2h30 et 4-5 heures, des fois, pour un opéra de Wagner. Mais comme je ne suis pas un ténor wagnérien, je n'ai pas eu à faire ça. Mais Werther, c'est 3 heures, et, enfin 2h30, mais il n'y a pas de chœur. C'est-à-dire que là, c'est les solistes qui prennent en charge la plupart de ce qui est chanté.
Comme un sportif de haut niveau, presque ?
Ouais. Ouais, c'est alors je le suis pas. J'ai beaucoup travaillé pour tenir à peu près le ténor, mais c'est ça. Il faut s'entretenir. On peut pas trop sortir. On peut pas. Il faut dormir. Il faut. Oui, c'est une vraie discipline très très exigeante.
Je vous ai interrompu. Dans quelles circonstances, Vincent Karche, vous perdez votre voix?
C'est au bout d'un an et demi de ce rythme-là. Je sens que je suis dans une représentation d'Orphée aux Enfers. Ça ne s'invente pas, hein. J'avais le rôle d'Orphée. Et je sens qu'au bout de cette représentation, je la termine de façon tout à fait correcte, je fais mon boulot, mais je sens que je coince tout dans la gorge pour pouvoir avoir les dernières notes à la fin de la représentation. Et je sens que là, je me suis fait très très mal pour pouvoir assumer ça. Et effectivement, là, c'est là que ça a commencé, la chute. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là que j'avais un nodule sur les cordes vocales. Ce qui n'est pas très grave en soi, hein, mmh. Et ça s'est réparé en un mois au niveau vocal. En revanche, ça ne s'est pas réparé aussi rapidement au niveau du bonhomme. J'étais cassé quelque part, ouais. J'étais en mille morceaux à ce moment-là.
Vous racontez cette histoire dans un livre publié chez Favre, un loup dans la gorge. Vincent Karche, combien de temps vous allez mettre à retrouver votre voix ? On va raconter les étapes, mais ça prendra combien de temps ?
Ben, la voix, je vous dis en un mois. En un mois de rééducation, à ce moment-là, elle était là. Et ce qui fait que j'ai tenté... Ça s'est passé en 2003. J'ai tenté en 2004, j'avais des contrats, d'en refaire un.
De recommencer
tout de suite. La voix était là. Là, c'était pour le rôle de Bénédicte dans Béatrice et Bénédicte de Berlioz, mmh. à l'Opéra d'Innsbruck, en Autriche, puisque j'avais un agent à Vienne, en Autriche. Et il se trouve que pendant cette représentation, je suis tombé dans les pommes. Paf, au milieu du spectacle, enfin presque à la fin, paf, je peux pas. J'ai la tête qui tourne et je tombe.
La douleur qui revient, c'est ça, au niveau des cordes vocales ?
Oui, il y a tout qui se resserre, c'est comme une asphyxie. Et donc la respiration qui monte, et ça vient dans la gorge, et ça se resserre, et c'est terminé. Adieu.
Et alors là, dans la deuxième phase, ça met combien de temps ? Ça vous prendra combien de temps ?
Alors la deuxième phase, pour le bonhomme, ça a pris là quelques années, parce que la chute a continué. Là, ça a été vraiment, je ne peux plus chanter, qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'ai envie de me flinguer à ce moment-là, j'ai vraiment envie de faire comme Werther d'ailleurs.
Mais pourtant vous êtes suivi, non ? Vous allez voir des médecins, vous êtes entouré ?
Je dépense tout l'héritage de mes parents à aller à New York, voir les professeurs de chant, le phoniatre de Pavarotti à New York aussi, à 1000 dollars la séance.
1000 dollars la séance. Un phoniatre, c'est un médecin spécialiste de la voix, c'est ça ?
Voilà, exactement, un ORL spécialiste.
Personne ne sait ce que vous avez ?
C'est sans arrêt, il y a un problème. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas physique, c'est pas physiologique, mais ça coince. J'ai la voix qui reste coincée et qui ne veut plus s'ouvrir. Il y a d'autres enjeux derrière ça, évidemment.
Oui, des enjeux psychologiques, et ce sera l'autre phase de la récupération de cette voix, on va la raconter. Mais vous dites, j'ai dilapidé l'héritage de mes parents, ça veut dire que vous vous êtes retrouvé sur la paille ?
Oui, au bout de ce processus, 2006, donc 2 ans après, il ne me reste quasiment plus rien, et je chute au RMI, hein, ça s'appelait ça comme ça à l'époque, le RSA. Et il y a vraiment ce moment où je me dis, tiens, si je continue, je ne remonterai pas. Là, je vais me retrouver à la rue, je vais me retrouver au Resto du Cœur, etc. Et c'est là qu'il y a quelque chose en moi qui a dû réagir.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invité est ténor. Après avoir connu la gloire des représentations dans presque tous les opéras de la planète, il a perdu sa voix et a failli ne jamais la retrouver. Vincent Karsch, vous avez accepté de vous prêter au jeu. Qui sont les trois ténors que l'on vient d'entendre?
Je donne le tiercé dans l'ordre.
Ah bah, c'est possible.
Alors bah, c'est le trio magique, là. C'est les trois ténors. Il y avait Carreras au début, Pavarotti en deuxième, et Placido Domingo en troisième.
Bon, bah, alors là, ah, chapeau. C'était facile pour vous, mais pas pour nous. Placido Domingo, tiens, vous nous avez raconté hors antenne tout à l'heure une anecdote amusante. Faut la partager avec les auditeurs d'RTL. Qu'est-ce qui vous arrive la première fois que vous chantez avec lui?
Ouais, ça c'était ma première représentation professionnelle à l'Opéra de Monte Carlo, dans les chœurs. Mmh. C'est avec Placido Domingo. Dans Payas, je suis la bouche grande ouverte en permanence et j'en oublie quasiment de chanter mon texte et ce que j'ai à chanter moi-même. C'était voilà, un artiste extraordinaire de le voir, de le côtoyer à 3 mètres. C'est un taureau dans l'arène, ce type. C'est une énergie que j'ai jamais connue, rarement connue, même sur scène.
Cette force physique dont vous parliez tout à l'heure, qui est nécessaire aux chanteurs d'opéra.
Une force physique, mais au-delà de ça, l'énergie. Ouais. C'est vraiment qu'il se dégage de certaines personnes, et là c'était rare. Et il continue à chanter à plus de 70 ans, alors que tout le monde avait dit qu'en chantant comme ça, ça ne durerait pas longtemps. C'est vraiment une force de la nature.
Vincent Karsch, vous nous racontez votre destin qui est absolument incroyable. Vous avez été une star, un grand ténor, et puis vous perdez votre voix. Vous perdez aussi votre argent parce que vous essayez par tous les moyens de retrouver cette voix et personne ne peut vous aider. Et puis ce sont vos souvenirs, oui, d'enfants, j'allais dire, mais vos rêves d'enfants qui vous ont sauvé. Pourquoi?
Ben, c'est ce moment où j'ai touché le fond, où quelque part quelque chose en moi s'est dit tu veux pas mourir. C'était vraiment cet enjeu-là qui était là. Et tout à coup, je me suis dit, mais pour pas mourir, c'était quoi la flamme de vie en moi? Et c'était quoi mes rêves de gosse? C'était quoi ma joie de vivre d'enfant? J'avais plus de joie de vivre à ce moment-là. Et vraiment, là, j'ai entendu la petite voix du petit Vincent, tout aigu, qui m'a soufflé dans l'oreille comme ça, sorti de nulle part, de l'intérieur de moi, le loup amérindien Québec.
C'est trois mots.
Ces trois mots, je les entends très clairement avec ma voix de petit gamin. Et effectivement, tout de suite, je me sens à nouveau respirer. J'avais la cage thoracique complètement serrée, je ne respirais plus quasiment à ce moment-là. Et oui, je ressens une petite flamme qui se réallume. Et ouais, j'adorais la nature. Les Amérindiens, ça me faisait rêver. Il faut que je rencontre ça. Il faut que...
Ça venait d'où, de lecture d'enfants?
Cro-Blanc, c'était mon livre de chevet. Ouais. Les loups, voilà. Pierre et le loup, c'était mon disque préféré. Cette nature qui me faisait rêver était liée aux loups et aux Amérindiens. Et je me souvenais de ça. Et tout de suite, j'ai tapé ces trois mots dans Google. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, loup amérindien Québec.
Et qu'est-ce qui sort?
Et la première chose qui sort, à la première ligne, site culturel amérindien de Saône-Antoine, au nord de Québec. Venez vous ressourcer, venez rencontrer la sagesse amérindienne. Il me reste quelques centaines d'euros, suffisamment pour tenir quelques mois, 3-4 mois. Et je décide de prendre un billet, de réserver. Je ne réfléchis pas, c'est vital pour moi. Je dois aller vivre ça. Et je pars chez Régent Sioui, sur son site culturel amérindien, en pensant y rester une semaine, 10 jours. Ouais.
Et vous êtes resté combien de temps?
Et je suis resté 4 mois.
Là, vous arrivez. À quoi ressemble ce site de Saône-Antoine?
J'arrive en plein hiver, il fait moins 15 degrés, c'est doux au Québec.
Bienvenue au Québec.
Bienvenue, là. Et puis j'arrive là, c'est pas loin de Québec, c'est pas la fin fond de l'Amazonie, c'est un type qui m'accueille avec sa voiture, il vit à la Québécoise, mais il m'emmène sur son territoire qui s'est reconstitué et où il accueille des gens en recherche qui veulent retrouver le bien-être dans la nature. Et j'arrive là, je descends de sa voiture et je suis saisi de tous mes sens par l'odeur de résine. Par ces chiens husky qui hurlent comme des loups, par toutes les sensations sont décuplées. Et j'ai l'impression de vivre, alors que je ne vivais plus depuis plusieurs années. Et je me dis, ouais, je suis au bon endroit là, en arrivant là.
Vincent Karsch, je vous racontais cette histoire fascinante dans ce livre, Un loup dans la gorge, qui est publié chez Favre. C'est cet homme qui vous accueille, ou en tout cas qui va vous guider dans les premiers jours, il s'appelle Réal, c'est ça?
C'est Réal dans le livre, c'est Régent dans la réalité.
Ouais. Quel sera son rôle exactement auprès de vous?
Il aura un rôle de guide. Il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. À la fois me guider, m'entourer quand j'en avais besoin, et à la fois ne pas jouer ce rôle de parent de substitution quand j'avais cette attente et qui n'était pas... La bonne manière pour moi d'aller réparer ce que j'avais à réparer. Donc il a été vraiment des fois dur avec moi, des fois très dur. Je suis même parti quelques jours du site en me disant « je ne veux plus entendre parler de ça ». Il y a eu ce moment de doute. Et puis, il y a eu la réconciliation, il y a eu la maturité en moi qui a grandi en quelques jours.
Mais dur pourquoi ? Qu'est-ce qu'il exigeait de vous ?
Il n'exigeait rien. C'était comment dire, quelquefois... À un moment donné, j'ai eu très très mal au dos. Je me suis retrouvé à l'hôpital de Québec. Et puis, un peu seul, il n'était pas présent. Il ne m'a pas accompagné dans ce moment qui était vachement dur, alors que j'aurais souhaité qu'il soit présent comme un parent. Mais il n'avait pas à rentrer dans ce rôle-là. J'avais à vivre ça dans ma solitude.
Vincent Cash, cette renaissance va passer par des exercices, c'est pas le terme, mais des expériences en tout cas qui sont surprenantes hein, pour les Occidentaux que nous sommes. On va prendre le temps de les raconter, mais une première, la hutte de sueur, c'est quoi cette expérience ? Vous pouvez nous décrire ce lieu ?
La hutte de sudation, c'est l'ancêtre du sauna, un peu ritualisé, où il y a quatre portes à franchir. Et à chaque porte, on rajoute des pierres incandescentes qui sont devenues rougies dans le feu, un feu sacré qu'il a préparé. Et voilà, et c'est de plus en plus chaud, c'est de plus en plus infernal. Et voilà, on accueille, ces pierres. Ils appellent ça les grands-pères. On dit aussi ce qu'on a envie de
réparer.
On
y entre nus dans cette hutte de sueur.
Oui, en slip, voilà. Ouais. Et on est comme des êtres humains, ça représente le ventre de la terre-mère. On est des êtres humains qui vont renaître après ça. Et tous égaux. J'ai su un jour qu'il y avait un ministre dans la hutte de sudation. Après, je savais qu'il y avait un type qui sortait de prison. Et il y avait un ténor d'opéra. Mais tous égaux devant l'expérience humaine et la souffrance humaine et la réparation humaine.
Vous avez suivi d'autres expériences encore plus surprenantes que celle-là qui vont vous permettre de retrouver votre voix de ténor, Vincent Cash. C'est ce que l'on vous raconte sur RTL dans La Curiosité.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité avec le ténor lyrique Vincent Cash qui raconte sa vie dans un livre passionnant, Un loup dans la gorge, publié aux éditions Favre. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous pouvez, après l'émission, podcaster l'émission pour découvrir ce destin absolument fascinant d'un ténor talentueux qui a perdu sa voix et qui est parti en quête de cette voix au Canada. Parmi les rituels que vous avez suivis, Vincent, pendant les 4 mois que vous avez passé sur le site de Tsonontouan, j'espère que je prononce bien, chez
c'est
les
parfait.
Indiens du Québec, il y a la quête de la vision. La quête de vision, c'est quoi ? C'est un rite de passage ?
Oui, c'est un rite de passage très important dans la culture amérindienne, et donc la culture huronne, là, qui est souvent est proposé aux adolescents. Le rite adolescent, quelquefois, qui nous manque dans nos sociétés à nous.
Du passage à l'âge adulte,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, ce passage tellement important. Mmh. Et donc, quelque part, j'avais aussi ce passage à faire. Il y a une part de moi qui devait aussi un peu grandir de cet ordre-là. Donc,
qu'est-ce que vous demande de faire ? Qu'est-ce que vous devez faire ?
Alors, c'est très simple. C'est un jeûne total de 3 nuits. Alors, nourriture et eau. Nourriture, je pouvais concevoir la chose, mais ne pas boire pendant 4 jours. Enfin, 3 jours et demi, c'était comme aller dans l'espace. C'était une zone intérieure à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas. Et donc, c'est effectivement, ça se prépare. On se choisit une zone de pouvoir qu'on aménage.
Dans la nature ?
Dans la nature. Bon, là, c'était à peu près à 2 km du site. Mmh. Et puis, je me suis construit ma petite hutte avec l'aide de Régent, tout ça. Hein, c'est très ritualisé.
Votre guide, Régent.
Ouais. Voilà, exactement. Et donc, je dois pouvoir dormir là pendant 3 jours au fin fond de la nature, sachant qu'il y a quand même des loups et des ours qui traîne. Hein.
Accessoirement. Ouais.
Accessoirement, c'est tout près du parc de la Jacques-Cartier, de la rivière Jacques-Cartier, donc on est vraiment dans une nature assez puissante et avec ce genre d'animaux.
Pourquoi on appelle ça la quête de la vision, la quête de vision ? Vous avez eu des visions, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un processus de 3-4 jours, on est dans un état autre, et effectivement, dans les nuits, dans les moments entre le réveil entre le sommeil et le réveil, il y a des choses qui se passent, qui sont inhabituelles en tout cas.
Comment se passe la première nuit ?
Alors la première nuit, premier jour, non, c'est ça qui est étrange, c'est que c'était le pire.
Ah oui.
Parce que à ce moment-là, ce sont les peurs et le mental qui se manifestent. Ça n'a pas encore lâché. Et donc, je manquais de rien. Je m'étais gavé la veille. Vous imaginez, j'avais bu, j'avais le ventre, mais j'explosais. Je me suis dit, il faut que je tienne 4 jours. Et j'avais mes peurs qui étaient là. Je soufflais. J'avais fait un petit feu parce que c'était au mois de juin et les moustiques, c'est infernal. Il faut aller dans la fumée sans arrêt pour ne pas être dévoré. Donc, j'entretenais mon feu. Et dès que je soufflais dessus, j'avais la tête qui tournait.
Vous aviez peur de quoi ?
Mais c'était la peur de manquer. La peur de manquer. Et c'est vraiment, j'étais faible à cause de ça. Et petit à petit, je sentais cette peur lâcher, le bien-être grandir au milieu de cette nature extraordinaire. J'avais un voisin écureuil, des voisines grenouilles. Ouais, ça devenait une espèce de, comment dire, d'apprentissage de la présence avec ce qui était là et cette nature magique. Se réveiller avec le soleil à 7 heures du matin. Les oiseaux, c'est l'orchestre symphonique de la forêt, c'est incroyable. J'avais jamais vraiment écouté ça avant, pourtant j'aimais la nature, mais écouter à ce point-là, être présent à ça, j'ai appris la présence là-bas. Avec rien, j'avais amené plein de bouquins, je me suis dit, je vais m'embêter pendant 4 jours, ça va être long. Il n'y a pas eu une seconde où j'ai ouvert un bouquin, c'était juste de la sensorialité, juste de la joie de vivre, rien. Et ça, j'ai découvert une force en moi et cette capacité-là qui me suit maintenant dans toutes les activités, dans tout ce que j'ai à vivre.
Vous avez recommencé à manger quand même.
Après, oui.
Après 3 jours et demi. Alors, pardon de poser une question très prosaïque après ce que vous venez de nous décrire, mais quel temps il a fait pendant ces 4 jours ?
3 premiers jours, génial. Ouais. Dernière nuit, oups, plic, plic. Plic.
Aïe.
Ça tonne. Je m'étais dit super, j'ai mis plein de bâches sur ma truc. C'est la bâche la plus étanche de tout le Canada. Bah ouais, non, en fait, c'est une cafetière avec des gouttes qui tombaient sur mon sac de couchage. Ouais. Donc c'était assez humide du coup. À un moment donné, j'ai dû migrer sur un tipi qui était pas loin et sous la pluie.
Mais de quoi vous avez rêvé pendant ces nuits ? Parce que c'est important de le raconter, Vincent Karch.
Oui. Bah, j'ai rêvé surtout dans cette dernière nuit. J'ai rêvé d'un loup. Qui, comme s'il était autour de ma hutte et qui venait par là, tranquillement, paisiblement, renifler. Il était là. Et j'ai senti très fort cette présence du loup comme animal totem et dans quelque part. Le dernier soir, c'était la vision quelque part qui peut apparaître à la fin d'un tel processus.
Est-ce que c'est là, Vincent Karch, dans cette hutte, dans cette forêt, seul, que votre voix est revenue, que vous êtes remis à chanter ?
Oui, je suis descendu alors un peu affaibli après 4 jours, pas bu, pas mangé, mais même avant de remanger, j'ai eu envie de faire quelques sons en descendant vers le site culturel, et la voix était là, libre, alors que je croyais qu'il fallait que je m'empiffre avant de rentrer en scène, et j'ai découvert vraiment des forces, une faiblesse, mais derrière cette faiblesse, une autre force qui était là, et pour ma voix aussi.
Mais ça veut dire qu'avant, dans les années qui ont précédé cette expérience dans cette tribu amérindienne du Québec, quand vous tentiez de chanter, ça ne sortait pas ? Ou alors est-ce que vous aviez peur de même essayer de chanter ?
Non, ça sortait, la voix était là, mais ça se coinçait tout de suite. D'accord. C'était, je ferme les vannes, je ne m'ouvre plus, je suis plus capable d'ouvrir mon cœur, ma joie, mon intérieur. Et vocalement, la voix, c'est le baromètre de notre état d'âme, de notre état d'être. Et là, ça me racontait, tu as quelque chose à soigner avant de te réouvrir.
Vincent Karch, vous êtes soigné là-bas, pardon Sidonie.
Après cette quête de vision, vous allez être baptisé. Quel est votre nom indien et pourquoi c'est important d'être baptisé?
Ouais, c'était l'aboutissement de ces 4 mois chez Régent, et il a sorti sa plus belle plume d'aigle qui était transmise de génération en génération. Et on a vécu il m'a fait vivre un rituel avec la sauge, et je suis devenu Anariskwa, ce qui veut dire le loup en Wendat Huron. Et pour moi, c'était un immense honneur. Une deuxième naissance quelque part.
Et on comprend donc maintenant le titre de votre livre, Vincent Karch, Un loup dans la gorge, publié chez Favre. C'était quoi ? C'était les douleurs du passé qu'il fallait dépasser ?
Oui, il y avait à comprendre des douleurs du passé, des douleurs familiales, des secrets familiaux qui ont été exhumés dans tout ça. Et j'avais à soigner toutes ces choses-là, à réparer à l'intérieur de moi, et pour moi, et pour la famille, quelque part, pour la lignée. Et c'est un processus extrêmement riche, douloureux, souvent. Hein, mais du coup, j'ai pu regarder en face certaines choses très, très compliquées, parce que j'avais en moi la joie. Et il y avait comme le baume inamovible de joie, de lumière à l'intérieur de moi, qui pouvait regarder et apaisé ce qui devait l'être.
Mais ce qui est fascinant, Vincent Karsch, c'est que c'est plus un voyage, plus qu'un voyage géographique, c'est un voyage en vous. C'était, vous êtes allé loin, mais pour vous trouver.
C'était un voyage intérieur. Et on a tous quelque part ça. On va des fois très loin, mais dans le fond, c'est pour nous rencontrer.
Et donc, on l'a raconté tout à l'heure, vous êtes redevenu ténor, moins frénétique, on va dire, que dans la première phase. Et puis, vous avez créé ces randonnées lyriques. Vous parcourez certaines régions du monde. L'une de ces randonnées vous a ramené au Québec, sur ce site amérindien, c'est
ça ? Oui, c'était extraordinaire. Et c'était en partenariat avec le Festival d'Opéra de Québec, qui a accepté de que j'emmène des gens chanter de l'opéra sur le site Huron. C'était incroyable que ça s'est déroulé de façon extrêmement facile. J'avais déjà chanté à l'Opéra de Québec, donc ça a aidé. Et donc c'est ça, c'était un retour. Et j'ai emmené des gens avec moi, vivre en concentré en 3 heures, ce que j'avais vécu en 4 mois. Je les ai emmenés sur l'endroit de la quête de vision, j'ai raconté ce qui s'y passait, et on a tous chanté, vibré avec nos voix dans cet endroit-là.
Vous avez retrouvé vos amis là-bas ?
J'ai retrouvé mes amis, c'était un moment de grâce, effectivement. C'était une conclusion de tout ce parcours, et puis le début de la transmission et du partage pour moi.
Merci beaucoup Vincent Karsch, votre récit était passionnant, émouvant.
Merci.
Plein de bonnes ondes, voilà, c'est le cas de le dire, qu'on a partagé avec nos auditeurs. Un loup dans la gorge, l'homme qui avait perdu sa voix puis retrouvé son âme, c'est un récit publié chez Favre. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez podcaster. Ne perdez pas vos bonnes habitudes sur rtl.fr. On se retrouve demain et dimanche dès 14h pour la curiosité du week-end.
Et puis bien sûr, lundi soir à 20h pour la dernière semaine de la saison, car à partir du 10 juillet, cadeau, vous aurez droit à la curiosité de l'été. C'est un best-of des meilleurs moments de l'émission et ça sera de 15h à 16h.
Attendez, il faut que je renote tout sur mon agenda. Donc samedi et dimanche, c'est 14h, lundi et jusqu'à jeudi, c'est 20h et ensuite, c'est 15h. Ok.
Oui, mais enfin.
Ah, parce que sinon, je serai jamais
non,
là.
Mais moi, mais attendez, moi j'ai une bonne idée. Vous allumez RTL, vous l'écoutez toute la journée et toute la nuit et vous posez plus de questions. D'ailleurs, c'est ce que font les auditeurs.
Voilà, voilà une bonne idée. Belle soirée à vous tout de suite, Agnès Bonfillon et Sylvain Charlet pour RTL Grand Soir. RTL. Il est 22h.
Vous écoutez RTL.